Yvan Amar.
Bonjour, écrire à haute voix, c'est le titre d'un ouvrage qui est paru assez récemment aux éditions de l'Harmattan et qui est co-signé par Souleymane Diamanka et par Julien Barret, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans La Danse des mots. Alors, écrire à voix haute, c'est le titre du livre. Il y a un sous-titre, rencontre entre un poète et un linguiste. Alors, je pense que le poète, c'est Souleymane Diamanka, que le linguiste, c'est Julien Barret, même si peut-être de temps en temps, il peut y avoir des interversions de... Peut-être que vous pouvez échanger vos spécialités, mais dites-moi un petit peu d'où vient l'idée de ce livre et justement qu'est-ce qu'ils ont à se dire, ce poète et ce linguiste que vous êtes tous les deux. Alors qui c'est qui veut commencer, Souleymane?
Bonjour.
Bonjour.
Déjà merci pour l'invitation. Ce projet en fait c'est né d'une rencontre et d'une passion commune autour de la langue française. J'écris en français depuis que j'ai appris à lire et écrire le français à l'école primaire. Et je suis passé par plein de choses, la poésie, le rap et jusqu'au slam maintenant. Et j'ai rencontré Julien qui avait tout un parcours universitaire autour de la langue française. Et on s'est dit, plutôt que de ramener le rap et le slam à quelque chose de forcément social, essayons de parler des mots qui sont dans ces poèmes-là et de créer des liens entre nous et les poètes du Moyen-Âge, les grands rhétoriqueurs. C'était un peu ça la démarche de départ.
Alors, Julien Barret, c'est à vous que je m'adresse maintenant. Vous êtes donc linguiste et en particulier, vous vous intéressez à toutes ces facettes orales de la poésie actuelle. Non pas, comme vient de le dire Souleymane, non pas uniquement pour essayer de voir s'il y a une cohésion sociale ou s'il y a des points communs d'un point de vue social, mais d'un point de vue beaucoup plus stylistique, pour voir si on peut parler quoi, d'une tendance, d'un style, d'une façon à la fois d'écrire et de parler.
Oui, j'écoute et j'écoute la poésie d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle marque un retour à la poésie orale. C'est vocal, c'est énoncé, on peut l'entendre. C'est rythmé. Le rap et le slam traduisent, incarnent aujourd'hui la poésie orale qui a disparu depuis le Moyen-Âge en France, mais qui reste assez présente avec le griot en Afrique de l'Ouest, le majdoub au Maghreb et aussi dans les traditions d'autres, même en Occitanie, en Corse, au Pays Basque. Et la poésie que j'entends, c'est celle-là, c'est la poésie orale. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre cette poésie scandée, rimée, rythmée et celle qui était celle des troubadours, par exemple.
Alors, est-ce que Souleymane Diamanka, vous vous définiriez facilement comme un slameur? Vous n'êtes pas que cela, vous avez eu tout un parcours dans l'écriture et dans l'oralité du français. Du français et peut-être d'autres langues d'ailleurs, on y viendra tout à l'heure.
Oui, slameur en fait c'est une drôle de définition parce que le slam n'existe pas vraiment, c'est un dispositif. C'est une soirée où chacun à tour de rôle peut venir prendre le micro et ensuite retourner dans le public. Et c'est vrai que j'ai rencontré ce mouvement à Paris, ça m'a plu de venir dire mes textes devant un public, mais je me suis jamais revendiqué slameur. J'ai participé à ces soirées-là, mais je suis pas un activiste. Je suis juste un être humain qui prend la parole, qui aime les proverbes, les dictons et même les phrases un peu odiardesques.
Odiardesque.
Ouais.
Qu'est-ce que vous entendez par des phrases odiardesques?
Des phrases odiardesques, c'est la manière de parler de Jean Gabin, tout ça, ce français qu'on retrouve dans l'écriture de Alexandre Astier, qui est très très écrite. Il y a un rythme, c'est une scansion que j'apprécie beaucoup. Et en ce moment, je travaille comme dialoguiste sur des projets. C'est une autre manière de mettre ma plume au service d'une oralité, que ce soit pour les comédiens. J'écris aussi des romans, tout ça, je m'enferme pas dans ce truc de slammer, mais j'aime les mots.
Une des choses que j'ai trouvé intéressante en lisant, par exemple, écrire à voix haute, c'est que vous différenciez le slam de la poésie. Vous dites que le slam, c'est pas forcément de la poésie. C'est un dispositif qui permet une certaine diction, qui permet une certaine communication avec des textes, mais vous dites que les textes sont pas forcément poétiques.
Oui, c'est juste une tribune de libre expression. Et ce qu'il y a de plus poétique dans les soirées slam, c'est le côté intergénérationnel, des gens qui se ressemblent pas et qui viennent partager quelque chose de commun, et c'est très rare. C'est assez compartimenté, la société. Ouais. En général, les gens qui font du hip-hop, ils sont avec les gens qui font du hip-hop, les gens qui font du conte sont avec les gens qui font du conte, et dans les soirées slam, j'ai vu la France, en fait. J'ai vu des gens très très différents, des écritures très différentes. C'est pas forcément de la poésie, mais cet acte-là d'offrir un verre,
de lever des barrières,
de lever des barrières et de s'entendre. C'est rare de s'écouter parler. C'est très très rare. Ouais.
En attendant, ça remet en question ce qu'on appelle de la poésie, parce que j'ai l'impression que à ce moment-là, vous donnez une valeur qualitative à ce que vous appelez poésie. Si vous dites, par exemple, parce qu'on pourrait très bien dire le contraire, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire qu'à partir du moment où un texte est organisé à la fois en fonction de sa sonorité et de son rythme, c'est de la poésie. On peut trouver que c'est de la poésie réussie ou de la poésie ratée, mais on va pas dire que c'est pas de la poésie. Il y a des poèmes dont vous pouvez penser qui n'ont aucun intérêt, mais qu'est-ce que ça veut dire un poème ? À partir du moment où un texte est organisé en rythme et en sonorité, par rapport au sens qu'il peut avoir, est-ce qu'on ne va pas dire que c'est de la poésie ?
Mais c'est ça.
Alors je m'adresse d'abord à Suleiman, et bien sûr, Julien, vous aurez le droit de mettre votre grain de sel.
C'est gentil.
Ouais. La poésie, comme on a voulu la définir, c'est, si on parle d'un art, c'est qu'il y a un certain savoir-faire qui mène à un certain résultat. Et la poésie, c'est là où il y a du rythme, là où il y a un travail sur les sonorités, un travail aussi sur les émotions. Ensuite, elle peut prendre énormément de formes, mais il y a tout un savoir-faire qui est déjà répertorié. Et si on additionne et on multiplie ces ingrédients-là, ça donne de la poésie.
Alors, Julien Barret.
La question extrêmement intéressante que vous posez là, celle d'abord du slam et de la poésie. Le rap, par exemple, on peut dire que c'est un genre musical. Un genre musical peut avoir une dimension poétique, mais déjà, c'est plus proche du genre de la poésie. Le slam, effectivement, c'est un dispositif, donc c'est pas un genre, c'est le fait que c'est un, je dirais peut-être un mode de discours, d'avoir un micro ouvert dans une soirée avec un public. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez faire du théâtre, vous pouvez faire du rap, vous pouvez faire de la comédie, du Raymond Devos, etc.
Et puis on peut lire ou bien déclamer des choses sans les lire, on peut dire des choses qu'on a écrites ou qu'on a imaginées soi-même, ou bien on peut dire un texte de Ronsard, de Mallarmé ou de l'Annuaire des Postes.
Et vous avez fait une remarque intéressante, le fait, à partir du moment, à la limite, où on décrète que c'est de la poésie, où on organise, on structure une parole avec du rythme et de la rime, oui, c'est de la poésie, mais c'est pas tout le temps le cas du slam, bien que, et là c'est aussi intéressant dans le prolongement de cette idée, il y ait une école comme ça, un peu grand corps malade, qui se soit formée petit à petit, peu ou prou.
Qu'est-ce que vous entendez par une école grand corps malade?
Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais être très légèrement polémique. J'apprécie pas énormément le slam de grand corps malade, parce que pour moi, ça résonne un petit peu comme les récitations de poésie qu'on a à l'école primaire. C'est souvent des alexandrins ou des décasyllabes, ce qu'on observe souvent chez les slameurs, un côté très très classique, mais c'est naturel, puisque dans le rap, on a un battement de mesure.
Bah oui.
Un battement de mesure, donc après on peut poser
c'est
un peu ce qu'on veut.
C'est normal qu'à partir du moment où il y ait de la poésie qui soit dite, qui soit déclamée, elle rencontre une certaine prosodie, et que cette prosodie puisse être régulière.
Et qu'une école pourra réagir, Suleiman, tu pourras réagir, tu t'en connais un rayon, qu'une école comme ça naissent de prosodie ou de métrique qui viendrait dire des alexandrins ou dire des décasyllabes avec souvent des personnifications.
Alors, des alexandrins, ce sont des vers en 12 syllabes, voilà. Et les décasyllabes, c'est en 10 syllabes.
Donc ça fait ta-ta-ti-ta-ta-ta, ta-ta-ti-ta-ta-ta. On a parfois une régularité métrique très forte.
Vous savez, quand on écrit de la musique, on l'écrit en 4-4, on l'écrit en 3-4, on l'écrit en 12-6, en 12-8.
Ouais.
Écrire des alexandrins, c'est d'écrire, c'est écrire en 12-8, d'une certaine façon. Si vous mettez en symétrie...
Si vous prenez Booba, par exemple, il y a beaucoup plus de polyrythmie, de jeu, ou n'importe quel rappeur des années 95, X-Men, Arsenic, il y avait des jeux de scansion, de flow, qui ont révolutionné le rap de MC Solar, qui lui était un peu non seulement monocorde, mais assez répétitif.
Ah oui, c'est vrai.
C'est ça qu'on trouve chez Grand Corps Malade.
C'est vrai que ça dépend des périodes. Si vous lisez du La Fontaine, vous avez des vers qui sont de longueurs différentes, d'un vers à l'autre, tout le temps.
Oui.
Si vous lisez les poètes parnassiens, c'est beaucoup plus régulier. Parce que c'est des styles, c'est des genres et c'est des époques qui sont différentes.
Je suis d'accord avec vous. Mais si vous allez sur les soirées slam, vous allez trouver des gens qui sont, et c'est normal, influencés par Grand Corps Malade. Mais si trop de gens font ça, on va avoir une forme d'uniformisation de la scène slam.
J'ai l'impression que c'est, il y a un conformisme.
Oui, il y a un conformisme déjà dans le rap et il y en a aussi dans le slam. Il y a du conformisme partout en général.
L-I-N-O, L-B-O-O-B-A.
Dis-moi où ce que tu penses tout bas. C'est le nouveau chapitre, on vient conquérir le titre et rire tes comptes pitres, pire on vient chérir. Le micro-erreur, que qu'on est terrain, c'est mauvais trip dans la terreur. Tu rêves pas, tu peux te pincer. Braque les spots, le beat puni, je suis venu muni. Mes potes unis en pote, ton sale cuni puni. Connu dans ce bis, je suis pas un bisou. Moi des tripes de la fesse, genre le bisou de Judas à Jésus. Faut être à l'aise dans ce truc. Trop souvent on porte la falaise, on finit par se briser la nuque. Hip-hop contre Marie Curie, écœuré de ces thèmes récurrents, je pose mes tueries entre diable et curie. Pur et dur et pas épuré. Pour les puristes, l'important, c'est pas la performance, mais la durée obscurée. Crade mon flow insensible. Un rap sans couille, c'est comme un assassin sensible.
La danse des mots. Yvan Amar.
Alors, Souleyman Diamanka, je me retourne vers vous. Vous écrivez et vous slamez en français, mais pas uniquement. Le français, c'est l'une de vos langues. Mmh. C'est pour vous la langue de l'école, et puis la langue du milieu, parce que vous vivez en France. Mmh. Mais vous parlez aussi le peul, qui est une langue peut-être antérieure d'un point de vue chronologique, antérieure au français. Alors, c'est toujours un peu dangereux de parler de langue maternelle, parce qu'il n'y a pas que la mère dans la vie. Mmh. Mais enfin, c'est la première langue que vous avez entendue, comprise, proférée.
C'est la langue de mon éducation, et c'est jusqu'à maintenant c'est la langue que je parle avec mes parents. Et j'ai rapidement compris que c'était une richesse. Au début, c'était interdit pour moi de parler français à la maison, et c'était interdit pour moi de parler peul à l'école. Et en grandissant, j'ai rencontré plein de gens amoureux de la langue française, et en creusant un peu, j'ai vu qu'ils avaient une autre langue aussi. Et comme John Banzai, avec qui on a écrit ce recueil, j'écris en français dans une langue étrangère, j'étais impressionné par sa manière d'écrire.
Alors,
en français.
Alors, dites-moi un mot sur John Banzai, avec qui vous avez beaucoup travaillé.
John Banzai, c'est les Nubians qui me l'ont présenté. À l'époque, j'habitais à Bordeaux, elles ont fait un projet de poésie. On parlait pas de slam encore à l'époque, avec des poètes américains et français. Et John et moi, on était les poètes français, lui polonais, moi sénégalais. Et tout de suite, on a vu qu'il y avait des similitudes dans notre manière d'aborder la poésie, d'accorder beaucoup de place à la technique. Et on a écrit ensemble ce recueil qui s'appelle « J'écris en français dans une langue étrangère ». Je lui ai appris des poèmes en peul, lui m'a appris des poèmes en polonais. Et dans le spectacle, je lui dis « Tu permets qu'on permute et c'est moi qui parle polonais et lui qui parle peul ». On l'a fait à New York, les gens comprenaient rien à ce qu'on racontait, mais on a vu que c'était...
Que de temps en temps, vous parliez polonais.
Exactement. C'est la langue qu'on a voulu inventer et le pays, c'est la Pologne. Et il m'a appris. Spadam jak gwiazda z nieba, nie ma drugiego pióra, który tak papier przekreśla. Wiatrem i wichurem byłem, a jestem i będę prochem i pyłem. Et moi, je lui ai appris. Tawon kwa suka ala bomware, on yilo non boala hajun i hende sare, on ye ya dole an torohare, kon andarun jada kalana non lare.
Est-ce qu'il a un bon accent?
Il a un super bon accent. Et moi, je me faisais même passer pour un Polonais à la peau noire. Je racontais toute une histoire, il m'avait appris quelques phrases que je pouvais placer partout. Par exemple, on pouvait me dire un truc en polonais, je répondais « Jestem sekretem », ce qui veut dire « Je suis un secret », et ça répondait à tout ce qu'on pouvait me dire, quoi.
« Je suis un secret », oui, c'est pas mal quand on manque de répliques de dire « Je suis un secret ».
Parce qu'on peut me dire « T'as appris où ? T'es polonais ?» Je réponds juste « Jestem sekretem », »,« Je suis un secret ».
Et là, c'est comme en peul, t'as une déclinaison « M, Jestem sekretem ».
Ouais. Et il y a les rimes aussi incorporées.
Alors, Julien Barret, qu'est-ce que vous entendez par là?
La transposition, c'est marrant que vous parliez du peul, qui pourrait peut-être être une langue plus ancienne que le français, qui a éclos au tournant de l'an 1000.
Le français aussi, hein.
Oui. Je parle du français, mais je me suis pas assez renseigné.
Le peul, on m'a dit qu'il avait 9000 ans.
Bon, après, c'est...
9000 ans, ouais. Ça fait beaucoup.
Il y a la légende aussi.
Ouais, mais c'est un peuple de légende. Mais j'ai grandi avec ça.
On ne trouvera jamais un locuteur de 9000 ans pour nous dire... Oui,
je me souviens, il y a 9000 ans, on parlait déjà comme ça.
Il y a des murs, il y a des murs qui
parlent. La question de la transposition d'une langue à l'autre est extrêmement intéressante. Le peul, que moi je ne connais pas plus d'ailleurs que le polonais, mais dont on peut... essayer de savoir ce qu'il recouvre du point de vue de la syntaxe, etc. C'est une langue à classe, avec des classes de mots et des déclinaisons, des désinences. Et ça me faisait penser à ça. Souleyman Diamanka a une appréhension du français qui va être une appréhension de la matérialité de la langue, c'est-à-dire comment elle résonne, avec des jeux qu'on trouve dans le livre, d'homophonie, d'équivoque, de palindrome, c'est-à-dire qu'on lit le mot dans les deux sens.
Dites-nous un peu d'abord ce que c'est qu'un palindrome.
Un palindrome, c'est une phrase qu'on peut lire indifféremment dans un sens ou dans l'autre.
L'amiral en ira mal.
Exactement. Après,
vous
nous
pouvez lire ça de gauche à droite ou de droite à gauche, l'ordre des lettres est le même.
Exactement. Une autre figure qui illustre davantage ce que je dis et qui peut-être illustre davantage l'esthétique de Souleymane Diamanka, c'est les vers holorim. C'est-à-dire que vous avez par exemple deux alexandrins qui disent des mots différents et des sens différents et qui se prononcent exactement de la même façon.
Alors, Souleymane, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple
Une
paire de vers holorim.
Une paire de vers holorim. La peau hésitante, la pente lente. Et la peau hésitante, la pente lente. Vous entendez les deux vers déjà?
J'entends. Donc,
poésie tente, la pente lente.
La poésie, elle tente.
La pente lente.
Une pente qui ne va pas vite, qui est lente.
La peau hésitante, la pente lente. C'est un vers holorim, moi j'appelle ça aussi rime richissime.
C'est Alphonse Allais qui a fait beaucoup ça.
Exactement, Alphonse Allais en a fait beaucoup.
C'était plus vers le calembour.
C'était
moins de la poésie et c'était plus du clin d'œil d'une certaine façon.
Très intéressant.
Il y en a qui sont fort beaux. Hein.
Oui.
Et on est très conscient qu'on n'invente rien, que tout est déjà dans la langue et que la plus grosse œuvre littéraire, c'est le langage. Mais après, dans cet alphabet-là, on peut vraiment s'amuser.
Pourquoi la plus grande œuvre littéraire, c'est le langage?
Déjà, parce que c'est ce qu'il y a de
citation.
C'est aussi ce que j'ai compris, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est de réussir à agencer tous ces mots-là, réussir à trouver les mots les plus proches de sa pensée pour se faire comprendre. Et c'est ça le plus difficile pour moi.
Ensuite, le fait d'écrire, c'est pas vraiment une œuvre littéraire.
C'est une œuvre littéraire.
C'est l'idée de Paul Valéry que reprend plus ou moins consciemment, plutôt inconsciemment, jusqu'à ce que je le dise sous les mains.
C'est ça qu'il y a de plus difficile, c'est de comprendre. Il paraît qu'on a entre 60 000 et 65 000 pensées par jour. Et l'artiste, l'écrivain, tout ça, c'est juste que, à un moment donné, ces pensées-là, il les dirige vers son œuvre. Mais je crois que c'est ça qu'il y a de plus dur.
D'écrire après. On a un petit peu les 60 même 1000 chaque jour.
Pas forcément.
Mais si vous prenez le dictionnaire.
Oui.
On va dire qu'il y a 60 000 mots en français, il y en a moins qu'en anglais. Des gens sur Internet se demandent est-ce que ça fait de la langue française une langue plus pauvre, alors que précisément elle s'est élaborée sur cet écrémage de mots. Bon, il y a 60 000 mots, vous prenez une syntaxe ou une grammaire, vous avez le livre dont vous êtes le héros, vous avez tous les mots, et dans la syntaxe, en puissance, toutes les possibilités, c'est ce que dit Paul Valéry,
repris par Jean-Pierre Richard. Quand c'est en puissance, c'est potentiel, mais c'est pas encore réalisé.
Et du moment où c'est potentiel, c'est possible.
Ah, c'est possible.
Et la poésie cherche à mettre
le possible
en
n'est pas
le
réalisé, justement.
Oui, mais du moment où c'est possible, c'est que le chemin est là et il suffit d'y aller.
Le chemin est là, mais il suffit d'y aller. Encore faut-il y aller.
Mais il y a une dimension potentielle dans les équivoques et dans la poésie, dans la mesure où une seule énonciation va pouvoir susciter une foule d'interprétations différentes. Alors, et d'équivoques chez le récepteur.
Julien Barret, parlez-nous un petit peu de ces équivoques. Qu'est-ce qu'on appelle des équivoques?
À l'équivoque, moi, c'est mon grand truc. Pour moi, c'est ma poétique, quoi. C'est, aujourd'hui, l'équivoque, c'est l'art, quoi. C'est le fait d'avoir une multiplicité de significations pour une seule énonciation. Si on a une...
Quand on dit, par exemple, « ma mort dorée », c'est une équivoque.
Oui.
Parce que, ou bien on pense à quelque chose ou quelqu'un qui est mort doré, ou bien on pense à une mort dorée.
Ouais.
Bon, je reprends un vers célèbre. Hein.
Et on pourrait prendre des exemples d'équivoques où, avec un seul mot, même avec « là », est-ce que c'est un article ? Est-ce que c'est « là » avec accent grave, etc. L'équivoque, ça peut être en peinture aussi, d'avoir sur une toile des lignes équivoques dont on ne sait pas ce qu'elles représentent, qui peuvent à la fois représenter plusieurs figures, d'avoir des visages qui soient perdus. Ça peut être en musique, on peut élargir le sens de l'équivoque pour arriver à la synesthésie, le fait d'avoir plusieurs sensations qui se répondent en poésie.
Mon sucre s'oublie pas car il est pimenté, la pluie ne s'usera pas car elle est cimentée, les anciens déroulent le tapis rouge, il y a des traces de ma voix sur des papyrus. Ils écrivent du soda, moi des whisky, ils sont les biscottes, moi le biscuit. Les médisants envoyés chez vétérinaire, je ne suis pas un de ces artistes intérimaires. Je vais faire me sous-titrer de traduction, une qualité de la pire tradition. J'inspire l'OXM et Kajigaz, la conique, puis c'est d'un flot ultraponique. Le but, nous alimenter, alimenter. Il ne sait que prendre le ventre et puis monter. Pas de recette secrète, mon sucre, il est pimenté, pimenté. Le but, nous alimenter, alimenter. Il ne sait que prendre le ventre et puis monter. Pas de recette secrète, mon sucre, il est pimenté, pimenté.
ton sucre il est bon, le mien il picote. Tu crois écrire enfoiré or tu tricotes. Balance la sauce, on n'est pas tes potes. Ça manque d'or, de métaphores, de litote. Quand je rentre en studio je n'ai pas d'amis. Si je t'y emmène dormir c'est sur un tatami. Ils sont fous cette bande de stylomanes. Dans la douceur je deviens le siromane. Leur jour passe en sablier. Chaque seconde je retourne le sucrier. En effaçant les chansons swing-gum, je veux juste prendre le triple à celui qui me donne.
Alors, je reviens à ce qu'il y a dans votre livre tout à fait intéressant, où il y a plusieurs chapitres, hein. il y a des dialogues, il y a des sortes d'interviews, et puis il y a des extraits de textes qui sont donc dans cet écrire à voix haute. Et vous parlez en particulier, Souleymane Diamanka et Julien Barret, vous parlez des mots chargés. Il y a des mots chargés parce que justement, parfois ils sont chargés d'équivoques. Il y a un mot qui vous plaît tout particulièrement, c'est le mot littoral, dites-vous. Et c'est vrai que, pour être chargé, il est chargé.
Parce que j'entends littérature, j'entends oralité.
Alors, littoral, on a lit d'abord, on a oral ensuite, avec une origine qui est très différente pour le mot.
Et c'est un mot, il y a un mot valise que j'avais inventé, c'est oralittérature. Et je me disais que littoral, il y avait déjà cette figure de style, mais déjà dans la langue française, quoi. Et c'est ça qui me plaît. Souvent, je me dis, c'est entendre les mots à l'intérieur des mots, avec l'exemple le rêve errant du rêve errant. Je me dis déjà tout est là dans la langue française. Et
alors répétez-nous ça doucement pour qu'on on voit bien justement où rêve, on peut faire des coupes.
Le rêve errant du rêve errant en un seul mot. Et c'est un hommage à Martin Luther King.
Obligé de pour un fromage. J'ai un autre exemple de Fab, un ancien rappeur qui s'est retiré du jeu, peut-être parce que le clash n'était pas trop de son goût. C'était je persévère. Façon persévère, le faux devient vert, le faux c'est le faux MC. Ouais. Dans
alors le persévère, quand même, il y a la grande image de Lacan qui est derrière.
Ouais. Hein. Le faux devient vert et aussitôt il en persévère.
Alors le il faux devient
vert, comme Hulk, il est mécontent, le faux, oui. Le faux MC, et aussitôt il en persévère, il en perd ses mots. Voilà, on persévère de trois façons différentes.
Balance du son façon trop sévère. Le faux devient vert et aussitôt il en persévère. Façon persévère, je veux pas que mon fils devienne mercenaire. Je veux qu'il aime sa mère et son dictionnaire. Visionnaire, missionnaire, idée fixée, prêt à vexer. Si ton questionnaire commence à me plaire, j'opère pépère. Si tu fais l'affaire, frère, ta part du bénéfice, faut que tu récupères.
Alors, est-ce que le fait de travailler justement sur ces rimes équivoquées et sur des mots qui sont des équivoques qui peuvent avoir une polysémie, c'est-à-dire plusieurs sens, selon qu'on les entend d'une façon différente. Est-ce que ça joue sur votre façon de dire, sur votre diction? Est-ce que dans votre façon de dire, vous retrouvez justement la découpe de l'écrit? Est-ce que ça fait écho, ça fait scintiller justement cette possible découpe?
Je crois que c'est même l'oralité qui influence la manière d'écrire. C'est parce que je vais le dire de telle façon que j'écris comme ça. C'est parce que j'ai aussi ce timbre de voix que j'écris comme ça. La plupart des textes qui sont dans ce livre-là, ils ont été écrits pour être dits. C'est une manière d'écrire. Et ce que j'écris pour d'autres projets, c'est tout à fait autre chose. Du moment où j'imagine ma voix...
Qu'est-ce que ça veut dire, vous imaginez votre voix?
Si je l'écris pour le dire, mon stylo, il a ma voix. Chaque mot que je pose, c'est avec mon intonation, ma respiration, et je sais les mots que je prononce.
Vous entendez parler quand vous écrivez?
Oui. J'écris rarement, en fait. Le fait d'écrire, c'est quand les phrases qui me viennent, elles prennent trop de place dans mon esprit, et que j'ai besoin de les voir physiquement pour voir ce que ça donne. Mais on écrit en dernier. C'est tout le monde, même les grands auteurs, la phrase vient, ensuite on l'écrit. Mais on l'entend d'abord.
Difficile de savoir comment écrivent les autres.
On peut penser au gueuloir de Flaubert.
On peut penser au gueuloir de Flaubert. On dit en effet
qui est un sacré styliste.
Que Flaubert disait ses phrases avant de les écrire pour voir comment elles sonnaient.
Je pense que même si tous les auteurs ne parlent pas à haute voix au moment d'écrire, ils sont obligés de parler dans leur tête parce qu'il faut bien que la phrase vienne de quelque part avant qu'elle soit posée sur le papier. Elle est terminée dans l'esprit, ensuite elle est sur le papier. C'est pas le papier qui fait naître la phrase.
Oui, je pense que ce n'est pas la seule façon d'écrire. Je pense qu'on peut écrire sans que ça passe par l'oralité, sans que ça passe par l'esprit. Par le son. Par l'esprit, oui, ça passe forcément par l'esprit, mais je pense que selon les manières d'écrire, et selon les gens, probablement, il y a des façons d'écrire qui sont différentes.
Je pense que c'est comme pour parler. Quand on s'adresse à quelqu'un, la phrase, on la réfléchit avant de la dire.
Et c'est pas sûr.
Non, mais il y a une tendance occidentale.
On l'entend avant de la dire. Je pense qu'on ne découvre pas ce qu'on a dit une fois que c'est dehors. Il y a un processus qui passe par l'esprit. Et ensuite, ça vient soit dans la bouche ou soit sur le papier.
Tu peux avoir une écriture automatique où ta main va plus vite que ta pensée. Tu peux avoir une tradition occidentale très cérébrale qui va pas mettre en avant la voix. À l'inverse de l'auteur de Dans la solitude des champs de coton, comment il s'appelle déjà ?
Coltès,
dont je te disais que le matin il se réveillait et il disait une réplique pour retrouver la voix qui est très importante dans les pièces de théâtre, dans les dialogues. Et souvent les dialogues sont... Enfin, est-ce que c'est possible de faire un vrai dialogue ? C'est difficile. Donc lui avait trouvé ça.
Ouais. Mais de temps en temps, on peut se rapprocher d'une logique du rêve. Par exemple, il y a une langue qui peut, j'allais dire, fonctionner toute seule d'une certaine façon. Mmh. Elle peut raisonner ou elle peut s'écrire indépendamment d'une volonté de l'écrire, d'une censure. Il y a des jeux. Je pense qu'il y a des jeux
conceptuels,
multiples.
Quoi, une autre langue.
Eh ben écoutez, merci infiniment à tous les deux, à Souleymane Diamanka et à Julien Barret d'être venus nous parler de ce livre « Écrire à voix haute » qui est sous-titré « Rencontre entre un poète et un linguiste » qui est paru aux éditions de l'Harmattan. Merci bien à tous les deux d'avoir été dans La Danse des mots qui est une émission proposée par RFI et le Centre National de Documentation Pédagogique. Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Hamard.